Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire.
Et de nous, qui se souviendra ? Par Nicole Guidicelli.
Michel Épiennoir naît au début de la Seconde Guerre mondiale en 1941 à Aumale en Algérie. Du côté maternel, sa famille est présente en Algérie depuis cinq générations, arrivée entre 1830 et 1870, de Russie, de Suisse, de Franche-Comté et de Corse. Tous ont été vivement encouragés à s'installer en Algérie pour peupler cette nouvelle colonie. Du côté paternel, son grand-père, qui est parisien et militaire de carrière, arrive à Aumale en 1901. Il y rencontre sa femme, fille d'une Alsacienne dont les parents étaient arrivés en Algérie en 1839, et d'un Béarnais déporté au cours de la Révolution de 1848. Ainsi, toute cette famille, des deux côtés réunis, représente bien le peuplement de l'Algérie au début de la colonisation. Aumale est une ville de garnison située sur les hauts plateaux au pied de l'Atlas saharien. En 1941, le père de Michel soigne les animaux des nomades.
Aumale était une ville très peu européenne et il y avait beaucoup d'éleveurs nomades parmi les Arabes. Et mon père travaillait justement avec tous ces animaux. Il ne se faisait pas payer souvent, et si bien qu'on avait une vie très pauvre. On habitait une maison avec une cuisine où il y avait toujours des rats. Le sol était en terre battue, les WC étaient dans la cour. On n'avait pas beaucoup de moyens à cette époque. Et ça durait jusqu'en 1949, où mon père a déménagé, a été directeur des services vétérinaires de la Kabylie. Et on habitait Délis, dans la petite Kabylie, un petit village qui ressemble à Hydra en Grèce, magnifique. La vie à Délis était beaucoup plus agréable, beaucoup plus européenne. On avait des rapports avec beaucoup d'amis, que ce soit européens ou musulmans. Et moi, j'ai connu mes meilleures années d'enfance à Délis. Dans les pieds noirs, il y avait plusieurs catégories. Il y avait donc les pieds noirs espagnols, les pieds noirs italiens, les pieds noirs maltais, les pieds noirs alsaciens, dont je faisais partie. Et c'est vrai que dans tous, à cette époque, comme ils étaient tous à peu près de, sauf les Allemands, de pays méditerranéens, il y avait un esprit de famille très 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 grand. Un esprit d'entraide, un esprit très convivial. On se réunissait avec des grandes familles. Le tempérament pied noir est très gai, volubile, jouisseur, nature, sportif, extrêmement sportif tous. Se contentant de choses très simples, des pique-niques. Oui, c'est un peuple optimiste et très gai. Et les pieds noirs, avec leur courage, parce qu'il fallait avoir beaucoup de courage et d'obstination pour vivre dans les premiers temps en Algérie, dans les années 1830-40-50, le taux de mortalité était très fort, surtout la mortalité infantile. Les conditions de vie étaient très très dures. Donc c'est un peuple extrêmement courageux, faut le dire, extrêmement persévérant. Surtout ceux qui étaient agriculteurs, parce que les pluies diluviennes ratissaient et anéantissaient toute la culture une fois sur deux. Le climat était très contrasté, comme dans tous ces climats méditerranéens. Il y avait les sauterelles qui se déplaçaient, il y avait beaucoup de choses. Donc c'est un peuple qui est extrêmement courageux, teigneux et en même temps très gai. Pourquoi ? Parce que... profitant de la moindre joie de la journée, sachant qu'ils vivaient sur un volcan et que demain, c'était pas sûr qu'ils restent parce que même si la France n'arrêtait pas de dire « on est ici chez nous, la France c'est l'Algérie c'est la France, c'est exactement la même chose, c'est un département français, on vit exactement pareil, on a les mêmes valeurs ». Nous, on savait dans notre inconscient que ça n'allait pas durer toujours, étant donné que la démographie de la population musulmane commençait à nous inquiéter. Les relations, elles étaient courtoises, mais chacun restait dans sa sphère. Dans cette colonie, à cette époque, on ne se mélangeait pas trop et on recevait pas les autres communautés, parce qu'elles ne nous recevaient pas non plus, parce que c'était comme ça, parce qu'on était minoritaire et qu'on sentait qu'il ne fallait peut-être pas avoir de fréquentation plus intime avec les autres communautés. J'avais aucune idée de la colonisation, mais alors pas du tout. On était dans notre pays, soi-disant, puisque tout le monde nous disait, de Mendès France à Mitterrand, qui venait régulièrement au cours de la 4e République et nous dire qu'on était chez nous, que la France, l'Algérie, c'était la France. Il y avait des squares, des clochers, des mairies. Chaque village d'Algérie essayait de ressembler à un village français. On francisait tout. Il était hors de question pour nous de penser que ce n'était pas notre pays, surtout à 9 ans ou 10 ans. Mais même après, pendant toute mon adolescence, c'était difficile, d'autant plus qu'on nous disait tout le temps que l'Algérie resterait française, quoi qu'il en coûte. Tout d'un coup, la guerre est arrivée d'une façon sournoise. Dans les livres, on voit que c'est arrivé en 54. On l'a qualifié d'événement. C'est vrai qu'au début, c'était un événement parmi tant d'autres. Et tous les ans, il y avait toujours quelque chose. C'est sûr qu'on vivait d'une façon instable. On savait très bien que la colonie allait peut-être avoir des remous. Donc elle est venue un jour de novembre 54, le 1er novembre, avec 70 attentats, tout d'un coup éparpillés dans toute l'Algérie. On aurait pu entendre à la radio, mais un peu comme font tous les gouvernements, tout le monde était concerné sauf nous. En 55, il y a eu le massacre dans le Constantinois où le FLN a tiré sur des Arabes et des Français et des Européens pacifiques qui ne demandaient rien. Et là aussi, on a minimisé. C'était rien, c'était pas grave. Le gouvernement avait tellement peur que la colonie européenne s'en aille. Et du coup, on ne savait pas trop quoi faire de l'Algérie. Donc, tous ces événements, je les ai appris après, en me penchant sur l'Algérie, en retravaillant. Mais sur le coup, premièrement, j'étais jeune. Deuxièmement, j'étais une fille. Les filles n'avaient pas le droit, trop, à mon époque, dans ma famille, de lire les journaux, d'écouter la radio, de parler politique. Je n'avais que 13-14 ans quand la guerre a commencé. Et enfin, le gouvernement minimisait toujours. Et en 1956, c'est là où la guerre était visible, à Alger. Il y a eu beaucoup d'attentats, beaucoup de bombes posées par le FLN, dans des cafés que fréquentaient les jeunes Européens, et les moins jeunes d'ailleurs, comme l'Automatique, le Milk Bar, la cafétéria. Et là, tout d'un coup, on a vu plusieurs morts et plusieurs blessés dans les magasins. On était fouillés tout le temps, toujours tout le temps. Dès qu'on entendait un bruit de pétard, on se collait au sol. On voyait des gens déchiquetés sous nos yeux. Quand on prenait le tram, il y avait toujours des traces de sang. On a vécu pendant un an, au moins, dans cette terreur. Moi, pendant ce temps-là, je m'étais inscrite en médecine. Et assez vite, j'ai voulu faire des remplacements d'externes. Et assez vite, j'ai été au contact avec les gens blessés. Entre les hélicoptères qui étaient là en permanence, entre les coups de feu qu'on entendait du matin au soir, entre les manifestations, les coupures d'électricité, les coupures d'eau, les bateaux qui n'arrivaient pas parce qu'il y avait des blocus tout le temps, les grandes manifs, ça allait à un rythme effrayant, surtout à Alger. Le rythme s'est accéléré de 1961 et 1962, là, c'était un rythme infernal. Donc, c'est vrai que le corps s'habitue, la jeunesse que j'avais à cette époque s'habitue. Vivre au milieu des bombes, des fusils mitrailleurs, du sang, au bout d'un an, deux ans, ça devient un quotidien. Et en mai 62, devant le nombre très très élevé d'enlèvements par le FLN, la politique de terreur qu'il y a eu après les accords d'Évian du 19 mars 62, ont fait qu'on a décidé de partir, un peu comme tout le monde aussi, puisqu'on est parti en juin 62. Moi, j'ai fait une queue de 3 jours et 2 nuits pour obtenir des places, des cartes d'embarquement et l'autorisation de quitter l'Algérie. Ça a été très difficile. J'ai persuadé ma mère et ma sœur qui vivaient à 30 km d'Alger mais qui n'avaient pas la même perception du danger de la guerre que moi qui vivais à Alger, de venir avec moi. Et elles sont venues avec moi. Je n'ai pas pu persuader mon père qui était toujours directeur de service vétérinaire et qui disait attendre les vacances d'août pour partir, comme avant, mais pas avant. Justement, il a attendu, il n'est pas parti avec nous, et 15 jours après notre départ, il a été enlevé, comme 3500 personnes, par le FLN. Depuis, on n'a plus de nouvelles. La France n'ayant pas recherché non plus ces personnes. On est finalement donc parti sur le bateau, le Kerouan, un 11 juin 1962. Bien sûr, le bateau était en surpoids, il y avait trop de monde. On a fait tout le voyage qui était très long, qui s'est allongé de 6 heures par rapport à la durée normale. On a fait ce voyage sur le pont et dans les cales, dans des conditions épouvantables. L'arrachement à la terre d'Algérie a été douloureux. Moi, j'étais sûre que je ne reverrais plus mon père, puisque depuis le mois de mars, il y avait des enlèvements d'Européens, de familles entières, d'enfants, et dans des conditions d'enlèvement épouvantables. Et surtout, l'armée française ne pouvait plus rien faire, étant donné que les accords d'Évian avaient été signés et que l'Algérie française était devenue l'Algérie et que les Français n'avaient plus d'autorité. Donc on ne pouvait plus rien faire. Donc enlèvement, on a su plus tard qu'il y avait... les disparus étaient dans des camps. Certains ont été torturés. On n'a pas eu beaucoup de renseignements puisqu'il y avait l'omerta de De Gaulle. Les journalistes ne pouvaient rien faire, même la Croix-Rouge internationale n'a rien pu faire. L'omerta venait à la fois du gouvernement algérien, mais aussi du gouvernement français. C'est vrai que ces enlèvements, ça faisait tâche, ça faisait pas bien après les accords d'Évian. Bon, il fallait pas en parler, on n'en a pas parlé. On n'en a jamais parlé, même maintenant. On a supporté ce deuil, surtout ma mère a supporté ce deuil, entre l'âge de 47 ans et 77 ans, pendant 30 ans. C'est très difficile à la fois d'être famille de disparus, mais surtout de ne pas avoir l'empathie de son pays, des gens. Personne ne sait en France qu'il y a eu des disparus d'Algérie, qu'ils soient européens ou harkis ou les musulmans pro-français. Il y en a eu beaucoup aussi. Donc on n'en parle pas et ça n'a pas existé. Moi, je suis donc la fille d'un disparu, qui a disparu pour rien. On ne sait même pas à quoi. Ça sert à rien. Il est mort pour rien. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur ma famille, sur mon père et ma mère, et sur l'Algérie. Je crois, pour faire le processus de deuil de... Ça a été difficile, surtout pour ma mère. Je crois qu'elle n'a jamais fait, et qu'elle est morte prématurément de pas grand-chose, pour rejoindre mon père. Donc elle ne l'a pas fait. Quant à moi, j'ai attendu qu'il ait virtuellement 100 ans pour dire, bon, il a dû mourir. Il a fallu attendre longtemps pour faire le processus de deuil, parce qu'il faut être accompagné, il faut en même temps qu'il y ait l'État, les gens, les médias qui vous aident un peu pour faire ce processus de deuil. Quand c'est nié, c'est plus difficile. Donc, à 100 ans, le jour de ses 100 ans, j'étais persuadée qu'il ne reviendrait plus. Mon père ne méritait pas ça. Mon père était très proche des Arabes. Mon père soignait les animaux des Arabes. Il était vétérinaire. Et ce n'est pas les pieds noirs qu'avaient les animaux, l'élevage. C'est que les éleveurs nomades arabes dans le sud. C'est pour ça qu'ils travaillaient surtout dans le sud. Et donc, il avait tissé des liens. Il parlait arabe, mais des liens d'amitié énormes. Il n'était pas du tout de tendance de droite, au contraire. Et lorsqu'il a disparu, tous ses amis kabyles, surtout, puisqu'on était en Kabylie à cette époque, ont tout fait pour le chercher sur place. Donc, mon père, il était pro-musulman, pro-indépendance de l'Algérie. Donc, on l'a enlevé, c'est pas normal. Et j'ai toujours voulu le venger. Et jusqu'au bout, tout ce que je fais, c'est en sa mémoire. Pour ma mère aussi, surtout, parce qu'elle a trop souffert, elle ne méritait pas. Donc, moi, j'ai eu un peu d'intelligence pour faire médecine, j'ai été le plus loin possible, j'ai eu un peu de force pour faire des sports, j'ai été le plus loin possible, j'ai eu un peu de chance pour gagner de l'argent, j'ai distribué à ma mère, à ma sœur, enfin, le plus possible. Et maintenant, tout ce que j'écris, je veux le transmettre à mes petits-enfants pour qu'ils n'oublient pas l'histoire de leur arrière-grand-père, enfin mon père et ma mère, pour qu'ils ne les traitent pas de colonialistes débiles qui ont fait suer le burnous, comme on nous a toujours reproché. Mais c'est surtout le retour et l'accueil des Français qui m'ont meurtri, qui m'ont fait du mal, comme à tous les pieds noirs, venant d'un gouffre de guerre. On pensait avoir un peu d'empathie. Sur le bateau, on s'attendait à ça. Et la haine qu'on a vue, l'indifférence le plus souvent, nous ont fait du mal. Notre bateau a reçu des tomates en arrivant. On était déjà crevés après plus de 24 heures de trajet sur le pont. On n'avait rien eu à manger. Quand on est arrivé, on nous a demandé nos papiers, on nous a encore fouillés, mais on aurait dit qu'on était des terroristes. Les bénévoles de la Croix-Rouge et de toutes les organisations qui sont venues après n'étaient pas encore bien au point. Et la population, dès qu'on a cherché un peu pour les familles qui cherchaient un appartement, dès qu'on disait qu'on était pieds noirs, c'était non. Donc l'accueil à Marseille, à cette époque, était hostile. Gaston Defer a même écrit dans le journal que les pieds noirs aillent seraient adaptés ailleurs. On a eu beaucoup de formules où on n'était pas les bienvenus. Et c'est pour ça qu'on nous a encouragés à quitter Marseille le plus vite possible et à partir dans le nord de la France. C'est ce que j'ai fait dès que j'ai passé l'examen de deuxième année de médecine. Donc, en septembre 1962, je suis allée à Tours. J'ai choisi Tours à pile ou face, entre les différentes petites villes de fac, parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'amis nulle part en France, Et une petite ville de fac était plus facile pour moi qu'une grande. J'avais 50 euros, ce qui représente 50 euros de maintenant, en poche, toujours ma valise avec les affaires d'été. J'ai vécu pendant une semaine à l'asile public avec les SDF que j'ai rencontrés, qui étaient charmants, qui étaient gentils comme tout. Et après, j'ai vécu 2 mois chez des prêtres dans un foyer, en disant que j'avais été cheftaine de Louveteau dans ma jeunesse, que j'étais catholique, enfin, essayant de plaider ma cause, parce qu'il fallait toujours expliquer, justifier que j'étais pas colonisatrice, que j'avais pas un fouet, que j'ai pas martyrisé les Arabes, les populations musulmanes. Ça a toujours été comme ça. Donc, à force, on s'invente une autre identité. Et après, j'ai trouvé une petite chambre pas chauffée, parce que c'était beaucoup moins cher qu'une chambre chauffée. À l'époque, je n'avais pas la notion du froid. Je pensais que pas chauffée, c'était... ça allait, hein. C'était pas un problème. Malheureusement, c'était l'hiver 62-63 et il a fait moins 26 à Tours. Dans ma chambre pas chauffée, je dormais avec les quelques vêtements que j'avais. J'en avais pas assez, mais j'avais tout mis sur moi. Et un jour, j'entends un pétard qui saute. Je pensais encore à Alger, une bombe. Non, c'était dans mon placard. J'ouvre mon placard et je vois une bouteille de lait gelé. C'est pour vous dire la température qu'il y avait dans ma chambre. De toute façon, j'avais fini par arrêter de dire que j'étais pied noir. Je m'étais inventé une autre identité. Mon père était militaire. J'étais né à Madagascar. Je m'appelais Pascal et pas Michel, que je réservais à mes amis. J'avais 21 ans à cette époque. Ça m'a donné le top départ de ma vie professionnelle et de ma vie tout d'un coup. J'ai compris qu'il fallait s'en sortir tout seul dans la vie, qu'on pouvait compter sur personne et qu'on devait tout à sa volonté. C'est comme ça que j'ai gravi les étages de la médecine, des spécialités, et que je suis arrivée jusqu'à mon rêve, être chercheur à l'Institut Pasteur. C'est vrai qu'il a fallu se battre pour survivre. C'était facile pour des jeunes comme moi. À 21 ans, on a toute la fougue de la jeunesse. En plus, j'étais étudiante en médecine. J'avais tous les outils pour me bagarrer et puis pour répondre. Mais c'est vrai, et c'est une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est pour défendre tous ces pieds noirs qui n'ont pas fait d'études ou qui étaient trop vieux et qui n'ont justement pas tous les outils que j'ai pour expliquer, pour laisser un témoignage de leur vie et surtout pour les revaloriser. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand on est rentré dans les premières années du retour de pieds noirs en 63, ces gens ont été très dépressifs parce qu'ils étaient vieux. Et quand on est vieux et qu'on est humilié, comme beaucoup de pieds noirs l'ont été, c'est beaucoup plus difficile. On a noté beaucoup de suicides parmi les pieds noirs qui étaient rentrés. Et il y a eu beaucoup de dépression. Cela touchait ceux qui avaient plus de 50 ans ou autour de 50 ans parce qu'ils perdaient leur outil de travail. Et ils n'arrivaient pas à faire face devant leur famille. Ils n'avaient pas d'argent. Et cela était mal vécu. Les personnes âgées, très âgées, se sont laissées mourir, souvent. Finalement, la tranche la plus facile, c'était les 20-40 ans. Ils avaient toute la force de la jeunesse. Mais c'est un drame pour toutes ces personnes âgées de ne pas avoir été bien compris. Contrairement aux États-Unis où j'ai vécu, la France n'est pas une terre d'intégration, ce n'est pas une terre d'immigration innée comme les États-Unis. Donc on regarde et on voit l'étranger toujours avec peur et on ne l'accepte pas tout de suite. Quand j'étais à Tours, on m'a demandé votre grand-père est tourangeau. J'ai dit non, je m'excuse. Dans chaque province de France, il fallait prouver à cette époque qu'on avait ses racines là, mais on ne peut pas avoir des racines partout, on peut aussi bouger. Donc la France n'est pas une terre facile pour s'intégrer. Et puis tous les caractères ne s'intègrent pas. Moi, j'ai vécu en Algérie l'époque la plus tragique qui soit, la guerre d'Algérie. J'ai vécu dans ma chair les douleurs de ma famille. Et du coup, j'ai vécu sur le mode tragique. Voilà, donc l'intégration en France, non, elle ne s'est pas faite tout à fait, mais ça n'empêche pas. On n'a pas besoin d'être adulé et adoubé par tous les Français pour être heureux. On peut être aussi rebelle et c'est pas plus mal. Pendant un temps, mais même chez moi, on n'a pas du tout revendiqué notre identité pieds-noirs alors qu'on avait des enfants, qu'on faisait toutes les tâches ménagères, etc. On s'appelait du nom de notre mari et on a évité de parler de ce problème puisqu'on était heureux, il y avait des enfants, il y avait d'autres choses. Ce problème est revenu pour tout le monde qu'à la retraite, quand on avait du temps pour se poser, ou au divorce pour moi, quand j'ai eu le temps de reprendre mon identité pieds-noirs. Mais avant, non, on ne peut pas avoir 36 000 identités. J'avais l'identité d'être la femme de mon mari. J'avais aussi un petit peu de mon identité, très peu. Bon, c'était des années d'avant. La femme n'avait pas toujours son identité bien à elle. Mais ma vraie identité pieds-noirs, je l'ai retrouvée quand j'ai divorcé de mon mari. Et c'est vrai que le mariage tue toutes les identités, puisqu'on est heureux, on ne va pas revendiquer en plus cette identité qui est une histoire de sa vie. J'écris comme par télépathie, comme si les ancêtres me dictaient quelque chose. Donc je crois avoir une mission, la mission de transmettre à tout le monde notre histoire. Avec ma perception, bien sûr, mais j'ai quand même lu 100 à 150 livres sur l'Algérie, et je suis scientifique, donc j'essaye de rester objective le plus possible. Je cite mes sources, elles sont diverses et variées. Donc j'ai une mission, parce que cette histoire a été tellement mise sous le tapis, méconnue, que c'est pas possible, c'est pas tellement pour moi, mais c'est pour tous ces pieds noirs, tous ceux qui n'ont pas eu le droit à la parole, tous ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Pourquoi seraient-ils coupables, tous? Parce qu'ils sont pieds noirs, parce qu'ils ont eu la malchance de naître en Algérie. Il n'y a pas de raison qu'on ait honte de notre passé. Tout le monde essaye de revendiquer son identité régionale. Tout le monde est fier de son identité régionale. Et nous, on devrait avoir honte. Naître, c'est tout. Moi, j'aurais pu naître à Paris et j'avais une autre histoire.
Un grand merci à Michel pour son témoignage. Cet épisode a été monté et mixé par Florian Lanoir et la musique est de Pascal Simoni. Et si vous aussi vous voulez témoigner et que je vienne à votre rencontre, vous pouvez m'écrire à quisesesouviendra@gmail.com. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.